Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole sur Cause Commune 93.1. C'est l'émission mensuelle, ou presque mensuelle, en partenariat avec la CIMADE Île-de-France que nous devons à Lydia Needham qui est avec nous mais qui parle pas. Elle organise tout en coulisses. Celle qui va parler ce matin avec nous, c'est Dalia Franz. Bonjour.
Bonjour.
Dalia, vous êtes responsable des questions européennes donc à la CIMADE nationale et on va parler avec vous du pacte européen. Le pacte européen qui a été adopté donc le 10 avril dernier, c'est le nouveau pacte sur la migration et l'asile. Donc c'est vrai que après la loi asile immigration, c'est encore encore des lois restrictives. Bon, je dévoile un petit peu, mais c'est pas très étonnant qui ont été votées, mais cette fois au niveau européen, ça a donc été adopté par le Parlement européen en avril dernier, mais tout récemment après un très très long processus parce que c'est une réforme assez profonde hein, des règles communes entre les États membres de l'Union européenne dans les domaines de l'asile et de l'immigration qui a été proposée par la Commission européenne, je crois que c'était en septembre 2020, donc 4 ans quand même, et c'était censé répondre à ce qui avait été qualifié de crise migratoire qui était une crise de l'accueil en Europe en 2015 après notamment la guerre en Syrie et l'idée, c'était de mieux faire face avec solidarité aux situations de crise et de force majeure. Ça, c'est ce qu'il y avait dans le texte, lié à un grand nombre d'arrivées irrégulières. Donc, c'est vrai que ça interroge un peu. Je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais est-ce que cette loi, elle était, enfin, ce pacte, cet ensemble de lois, parce que vous le direz, c'est plusieurs paquets qui ont été adoptés. Est-ce que c'était encore valide? Est-ce que c'était encore nécessaire? Puisqu'on a vu qu'en 2022, l'Europe a montré qu'elle pouvait et savait proposer un accueil digne à des personnes fuyant en masse leur pays. Les Ukrainiens ont été assez bien accueillis. Enfin, c'était pas sans petit problème, mais en fait, l'Europe a montré qu'elle savait qu'elle pouvait faire face. Alors, est-ce que on avait encore besoin de cette loi en 2024? Et pourquoi ça a mis autant de temps?
Effectivement, ça a été des négociations assez intenses et longues. Et en fait, on peut même revenir à 2016, puisque la volonté de réformer tous les textes qui gèrent les questions de migration et d'asile est venue en 2016. Il y a eu des premières propositions qui ont été abandonnées. Et donc, il y a eu là des propositions de textes qui sont venues en 2020 par la Commission. Donc les négociations ont été longues et intenses parce que les différents États en Europe n'ont pas les mêmes intérêts, n'ont pas les mêmes envies. Il y a les pays d'entrée qui ont eux des demandes particulières qui conviennent pas forcément aux autres, puisque c'est eux qui sont le réceptacle, on va dire direct des arrivées sur le territoire européen.
On pense notamment à la Grèce et à l'Italie quand on parle des pays d'entrée.
Hein. Tout à fait, et aussi à l'Espagne par exemple, Chypre et Malte. Et puis on a d'autres États, par exemple notamment à l'est, donc comme la Hongrie, qui sont très réfractaires à accueillir des personnes étrangères, des demandeurs d'asile sur leur territoire, et donc qui ont pu bloquer à plusieurs reprises les avancées dans les négociations. Donc voilà, ça a mis du temps parce qu'il n'était pas évident de pouvoir trouver un accord, et puis parce que les positions étaient aussi différentes entre le Conseil, donc qui est composé des gouvernements des États membres, et puis entre le Parlement qui fixait certaines limites. Et là aussi, il a été assez difficile de se mettre d'accord. Et donc les accords ont globalement abouti en fin d'année dernière. Et ensuite, les textes ont été votés au Parlement. Mais même au moment des accords, ce qu'on a pu voir, c'est que finalement, ils ont été obtenus un peu, si on peut dire, par la force auprès du Parlement. C'est vraiment le Conseil et donc les États membres qui ont imposé leur vision des choses. Et donc les limites qui avaient été fixées par le Parlement ont toutes sauté, en fait.
En fait, quand vous dites le Conseil, il faut savoir que c'est pas des parlementaires, c'est pas des gens élus, c'est des gens nommés par les gouvernements des pays respectifs. Il y a que les députés européens qui forment le Parlement européen qui sont sont élus et donc qui ont une légitimité démocratique, si on peut dire.
Oui, oui, tout à fait. Après, le Conseil, c'est vrai que c'est des membres du gouvernement de chaque État. Mais en tout cas, ce qu'on a vu, c'est que le processus, finalement, n'était pas extrêmement démocratique, puisque le Parlement a un peu perdu la main sur les négociations. Et puis, parce qu'il y avait vraiment une volonté assez forte de parvenir à un accord avant la fin de la mandature, et donc là, des élections qui approchent. Et donc, voilà, les choses sont allées assez vite sur la fin. Donc, il y a eu une pression assez importante pour arriver à un accord. Et ça s'est fait au détriment d'un certain nombre de limites qui étaient déjà pas très, pas très élevées, qu'avait pu fixer le Parlement. Après, est-ce que ces textes, ils viennent répondre donc à cette volonté de base de pouvoir gérer des situations de crise ou d'arrivées massives? Alors déjà, il y a la question, est-ce qu'il y a vraiment des arrivées massives, des entrées irrégulières? En réalité, quand on regarde les chiffres sur les entrées au niveau européen, les entrées irrégulières annuellement, ça représente à peu près 5% des entrées. Donc c'est pas tant que ça. On nous présente un peu des... en tout cas, on essaye de nous présenter comme si on avait des arrivées massives, ingérables, qu'on était envahis, etc. C'est pas du tout le cas. Enfin, c'est pas du tout le cas quand on regarde les chiffres, puisque les entrées irrégulières représentent à peu près 5% du pourcentage des total des entrées. Et que, par exemple, là, en 2022, si on regarde les chiffres, le nombre d'entrées totales irrégulières et régulières, ça représente 0,10% de la population européenne. Donc, encore une fois, on n'est pas sur...
Dans une submersion.
Tout à fait.
Voilà. Et paradoxalement, ce qui, par contre, peut être assez impressionnant, c'est les moyens déployés pour militariser les frontières, pour militariser la mer aussi avec Frontex. Donc, on est vraiment, dont pour le coup, là, c'est il y a une sorte de quoi qu'il en coûte pour de dépenses pour empêcher d'entrer en Europe. Et on a l'impression vraiment que voilà, c'est écraser une mouche avec un coup de canon. Et en l'occurrence, enfin, l'image n'est pas très belle. Mais est-ce que du coup, cet arsenal législatif, c'est aussi quelque chose qui est un peu démesuré par rapport à l'enjeu, à votre sens?
Bah, c'est clairement quelque chose qui est démesuré. C'est sûr que quand on voit les moyens qui sont déployés et financier, puisque le budget qui a été voté pour 2021 jusqu'à 2027, c'est plus de 26 milliards d'euros qui ont été renforcés encore là récemment avec 9 milliards d'euros supplémentaires. Donc c'est des fonds qui sont importants, mais c'est aussi des barrières juridiques qui sont mises en œuvre, des barrières technologiques aux frontières et un peu partout. Et en réalité, c'est des mesures... c'est une approche qui est très sécuritaire et répressive et qui est en œuvre depuis déjà des années et qui montre ses limites aussi depuis des années. C'est-à-dire que on sait que les différentes restrictions qui sont mises en œuvre n'empêchent pas l'immigration, que les gens continueront à venir. Et on l'a dit, on n'est pas non plus submergé d'arrivées. Mais par contre, c'est une réalité du monde dans lequel on vit actuellement. Donc les personnes vont continuer à venir et les conséquences que ça a seulement, c'est des désastres humanitaires de plus en plus importants, et c'est ce qui va être renforcé là avec les mesures qui vont être mises en œuvre par ce pacte, et des violations des droits systématiques. Donc là, en fait, ce qui est proposé dans ces textes, c'est un renforcement de mécanismes qui sont déjà en œuvre et aux frontières, donc des pratiques qui n'étaient pas forcément légalisées, mais en tout cas qui existaient. Je pense notamment à tous les campements, les hotspots en fait qu'on connaît déjà en Italie ou en Grèce. Donc ça aussi, c'est des systèmes qui vont être renforcés, alors qu'on a pu voir qu'ils fonctionnaient pas en fait et qu'ils avaient des conséquences très graves sur les droits fondamentaux, sur la dignité des personnes qui sont bloquées aux frontières.
Ouais, juste une petite remarque d'Alia France, c'est vous dites pour des raisons sécuritaires, mais là aussi, je suis désolée de préciser ça, mais en même temps, on n'a pas de preuve que l'immigration est dangereuse. En fait. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a tout un vocabulaire qui nous est imposé en fait, donc partout, dans tous les médias. Et donc je fais gaffe qu'il n'y en ait pas ici. Donc voilà, en fait, c'est des raisons idéologiques en réalité plus que sécuritaires, puisque contrairement à ce qu'on nous dit sur d'autres antennes d'information continue ou de désinformation continue, le lien entre insécurité et entrée même illégale sur le territoire européen n'est pas du tout établi. J'entends de la musique, je suis très contente, mais j'aimerais bien continuer l'émission sans musique, merci. On en aura tout à l'heure, c'est super. Voilà, donc c'est réparé. Un grand merci à Gilles et Jérôme qui se mobilisent pour réparer. Donc voilà, donc on a vu pourquoi ça avait pris si longtemps, parce que c'est des tractations parfois, j'oserais dire, un peu opaques, je sais pas ce que vous en pensez, qui ont permis d'adopter, enfin voilà, on sait que l'Europe est un lieu du compromis, ce qui est parfois un bien d'ailleurs, mais en l'occurrence là il y a eu, ça fait penser un peu à ce qui s'est passé quelque part aussi hein, pour la loi immigration en France, c'est-à-dire il y a eu aussi une sorte de petit théâtre où les gens de droite et d'extrême droite ont poussé des hauts cris en disant mais ça va pas assez loin, les gens de gauche ont bien sûr repoussé ce texte. Et puis du coup, il y a les gens de droite, mais qui se disent au centre, qui ont pu le voter tranquillement. Enfin voilà, non, je résume, mais c'est vrai qu'on avait l'impression de réentendre quelque chose qu'on avait déjà trop entendu.
Non, mais tout à fait, c'est vrai que c'est très similaire. Comment ça a été adopté, justement, comme j'en parlais, sur les derniers mois, et toute la pression qu'a pu être mise en œuvre, notamment auprès des parlementaires, pour qu'il y ait un accord. Alors que beaucoup de personnes trouvaient justement, enfin, cet acte insatisfaisant, et notamment en France, il a été voté seulement par la majorité
présidentielle. Ouais.
Voilà, mais sinon, il était rejeté des deux autres côtés. Donc, ouais, c'est vrai que c'est inscrit un peu dans les mêmes mécanismes, dans les mêmes schémas, puis ça défend aussi des idées qui sont assez similaires. Donc,
Et on a l'impression, on en avait parlé avec Sophie Dru, votre collègue, quand on avait décrypté déjà ce pacte, et on avait vu que, bon, déjà, un grand nombre d'États européens, dont la France, violaient allègrement le droit européen d'alors en militarisant ses frontières, en les fermant sous des prétextes un petit peu limites, en réitérant la fermeture des frontières, ce qui fait que les frontières, notamment celle de Montgenèvre, enfin celle de la frontière franco-italienne, les deux frontières franco-italiennes sont verrouillées, militarisées, alors que normalement on est dans l'espace Schengen. Est-ce que le pacte a un peu entériné des dérives des États membres? On se souvient de Darmanin, disons que de toute façon il n'en avait rien à faire et qu'il allait continuer à violer le droit. Est-ce que du coup c'est un peu un blanc-seing qu'on a donné à certains États comme la Hongrie ou la France, je ne sais pas?
Oui, complètement. C'est fait de façon aussi à ce que ce soit pas écrit directement dans les textes, mais en fait, ça ouvre à des pratiques, à la possibilité de mettre en œuvre des pratiques qui vont engendrer en fait des violations des droits et des atteintes à certaines garanties, notamment au niveau du droit d'asile. On a des règles, notamment, je pense, au règlement sur la gestion des crises et des cas de force majeure, où on laisse la possibilité aux États de s'affranchir d'un certain nombre de garanties au niveau du droit d'asile. Donc ça va être, par exemple, de refuser d'enregistrer les demandes d'asile de certaines nationalités pendant un mois ou deux mois. Donc là, on est sur une claire violation, en fait, du droit d'asile, tout simplement, mais ou de placer toutes les personnes en procédure accélérée sur un examen de demande d'asile à la frontière, donc dans des conditions où on est enfermé, etc., et dans une procédure donc qui est accélérée. Enfin voilà, on va avoir des règles comme ça qui vont pouvoir être mises en œuvre par les États en cas de crise.
Alors, qui définit la crise? Est-ce qu'on a des critères de crise? Est-ce que c'est prévu, ça? Ou est-ce que c'est vraiment un petit peu à l'appréciation aussi des autorités des pays?
Alors, il y a des critères qui définissent les crises. On va dire qu'il y a un minimum qui est mis en place qui est calculé par État en termes d'accueil, de capacité d'accueil et de gestion des arrivées. Et donc, en passant, si on passe une certaine marge, on va estimer que potentiellement cet État fait face à une situation de crise. Après, c'est des calculs et des règles qui sont extrêmement complexes et pas facile à comprendre, en tout cas quand on lit les textes, donc on sait pas trop comment ça va être mis en œuvre. Et donc normalement, c'est cette la reconnaissance de cette situation de crise ou de force majeure doit quand même être reconnue par la Commission et le Conseil pour que ces États puissent mettre en place ces mesures. Mais on prévoit aussi que en cas de vraiment grosse crise, ils peuvent déjà mettre en place ces mesures, donc qui sont extrêmement attentatoires aux droits. avant même d'avoir eu la validation du Conseil, parce que voilà, ce serait particulièrement urgent, donc on leur laisse faire ça, puis après c'est validé a posteriori, donc c'est des mesures qui sont très inquiétantes, mais même de façon générale, les mesures qui sont prévues sur le filtrage, dans les pays d'entrée, au niveau des frontières extérieures, il y a un risque très important de refoulement des personnes sans examen réel, en fait, de leurs craintes, puisqu'on a une facilité assez grande de pouvoir placer un nombre très très large de personnes dans ces procédures accélérées ou d'estimer qu'elles sont pas du tout éligibles à l'asile et donc en fait les renvoyer très très rapidement. On a notamment la possibilité de placer en procédure accélérée à la frontière les personnes qui viendraient de pays dont le taux de reconnaissance de l'asile est de moins de 20%. Et donc ça, c'est déjà une pratique discriminatoire.
Algorithmique, en fait. C'est fou, on n'est plus sûr, même plus déjà les pays sûrs par rapport au droit d'asile. Une petite distorsion, mais là on est donc, si on vous a dit non à 100% ou à 80% parce qu'on a décidé de vous dire non, bah du coup on va continuer à vous dire non parce qu'on a décidé que ce serait comme ça. C'est purement, c'est des statistiques, des mathématiques et ça renforce en fait des injustices.
Complètement, et en plus c'est complètement contraire à ce qui est prévu par la Convention de Genève, puisqu'en fait on ne peut pas traiter l'asile par la nationalité,
normalement non, c'est un droit individuel.
C'est une demande qui doit être individuelle, donc on peut pas décider parce que t'as une nationalité ou pas de placer en fait de refouler de façon assez large des personnes qui viendraient de tel ou tel état. Donc voilà, on a tout ce type de règles en fait qui peuvent rapidement entraîner des pratiques qui vont être attentatoires au droit ou discriminatoires ou
Alors ça, c'est dans ces fameux hotspots, c'est-à-dire qu'en fait, on ne laisse pas les gens entrer officiellement sur le territoire, on les parque dans des zones d'attente, en fait, on crée des zones d'attente et on examine expressément leurs demandes et on peut éventuellement les refouler immédiatement, c'est-à-dire les renvoyer les renvoyer où justement? Parce que il y a ces fameux, ça n'a pas changé. Tous les pays ne veulent pas réadmettre leurs ressortissants. Comment on fait?
Alors effectivement, il y a une procédure, donc c'est une des mesures phares du pacte qui met en œuvre une procédure de filtrage aux frontières à laquelle toutes les personnes qui seraient interpellées donc aux frontières extérieures seraient soumises. Et donc à partir du moment où cette procédure est enclenchée, les personnes sont placées en fait dans une fiction juridique où on estime qu'elles sont pas rentrées réellement sur le territoire. Pourtant, en pratique, elles sont là, mais on va considérer qu'elles sont pas rentrées. Et donc là, on a une procédure de 7 jours pour déterminer si est-ce qu'on laisse rentrer les personnes légalement, donc pour pouvoir faire leur demande d'asile, ou est-ce qu'on les maintient à la frontière, là pour faire une procédure d'asile en accéléré, ou alors pour les expulser directement parce qu'elles seraient pas éligibles ou qu'elles présenteraient pas de demande d'asile. Donc là, c'est assez flou où vont se trouver ces personnes et sous quelles contraintes elles seront gardées, puisque on part du principe qu'elles ne sont pas entrées sur le territoire, elles doivent rester à disposition. On nous parle d'assignation à résidence et en même temps de possibilité de rétention. Donc en fait, on se dit que ça va être de toute façon une forme d'enfermement qui va concerner un nombre important de personnes. Et derrière, peuvent être soumises soit à une procédure accélérée au niveau de l'asile, mais donc très accéléré dans des conditions compliquées et dans des lieux où on imagine déjà les camps qu'on voit.
Ouais, et ça veut dire que là, on parle de personnes, on parle d'hommes, de femmes, d'enfants. Enfin, il y a plus du droit de l'enfant, de tout ça. On n'enferme pas les enfants. Ça, pour le coup, c'est de la fiction maintenant avec ce nouveau pacte.
C'est complètement la fiction, puisque c'est effectivement des mesures qui peuvent concerner des familles et des mineurs isolés dans certaines conditions, si on estime qu'elles présentent une menace à l'ordre public. Et on a encore toujours une question d'interprétation de
quelle est cette menace. Oui, l'ordre public, ça se fabrique. La menace à l'ordre public, ça se fabrique, on le voit.
Et puis, même sur le principe, de partir du principe qu'on peut, du coup, enfermer des mineurs isolés parce qu'elles présenteraient une potentielle menace à l'ordre public, c'est quand même déjà aller assez loin dans les mesures de contrainte. Donc voilà, on a toute cette procédure qui est mise en œuvre et effectivement des personnes qui peuvent être renvoyées. Donc ces procédures, elles peuvent durer, donc on a 7 jours pour le filtrage, 12 semaines pour la procédure accélérée au niveau de l'asile et puis encore 12 semaines si c'est suivi d'une procédure de retour. Donc c'est déjà quand même assez long, avec des durées qui peuvent être augmentées en cas de crise. Et puis derrière, ça peut être suivi par de la rétention si effectivement on n'arrive pas à procéder à l'expulsion de la personne, puisqu'on sait que c'est pas toujours toujours facile. Et puis il y a aussi la possibilité, donc quelque chose qui existait déjà, mais qui a été très largement renforcé dans les textes, la possibilité d'expulser des personnes qui souhaiteraient de demander l'asile vers des pays tiers dits sûrs. Donc encore une fois, comment on définit ces pays tiers sûrs, c'est pas très très clair, et c'est d'autant moins clair que il y aura ce qui prévoit, c'est une liste au niveau de l'Union européenne, mais chaque État peut avoir quand même sa propre liste. Donc on a déjà une grosse contradiction.
Et ces pays sûrs, ils sont d'accord pour réadmettre des populations qui ne sont pas issues de chez eux. Alors évidemment, on pense automatiquement, le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne, donc n'est pas concerné par ce pacte, mais on pense aux avions qui ont décollé de Grande-Bretagne pour le Rwanda. C'est quelque chose d'assez incroyable. Jusqu'à il y a quelques années, on pensait pas que ce serait possible, ce genre de choses. De sorte de déportation de gens dans d'autres pays africains qui ne sont pas les leurs. C'est très choquant, je trouve. Est-ce que éventuellement on peut imaginer des choses comme ça? Est-ce que ça pourrait devenir légal avec des espèces d'accords bilatéraux comme ça qui sont clairement sonnants et trébuchants, hein, c'est-à-dire qu'on échange des gens contre de l'argent quelque part.
Ce qui est prévu par le pacte, on n'est pas au même niveau, puisque ce que prévoient les textes là, c'est donc la possibilité de renvoyer des personnes vers des pays tiers dits sûrs dans le cas où il y aurait un lien, enfin la personne aurait un lien avec ce pays. Après, le lien n'est pas clairement défini, ouais. Mais ça veut dire qu'elle aurait résidé dans cet État pendant certaine période.
Les gens qui font la route, ils voyagent et ils ont forcément travaillé un jour en Tunisie ou travaillé en Libye. Donc on peut
tout
imaginer. Enfin voilà, suffit juste d'imaginer ce que.
Ça peut aller vite, mais c'est vrai que la différence qu'il y a là par rapport à l'accord qui a été adopté là entre le Royaume-Uni et le Rwanda, c'est que là, c'est toutes les personnes qui peuvent être envoyées vers le Rwanda, peu importe qu'elles y aient jamais mis les pieds.
Ouais.
Donc, on n'en est pas encore là, mais on pourrait très bien en arriver là. C'est d'ailleurs une des propositions hein, du parti majoritaire au Parlement européen, c'est de pouvoir mettre en œuvre ce type d'accord par la suite. Et on a un développement de une multiplication de ces accords justement avec des pays tiers. On l'a vu récemment encore là avec l'Égypte ou avec la Mauritanie, mais on a par exemple quand même l'Italie qui a aussi adopté un accord avec l'Albanie pour délocaliser le traitement des demandes d'asile. Donc on est aussi sur des choses assez proches au final. Donc là, l'Italie, dans cet accord avec l'Albanie, c'est les demandeurs d'asile qui arrivent sur son territoire seront envoyés en Albanie pour que leur demande d'asile soit examinée là-bas. Et s'ils obtiennent l'asile, ils seront réapatriés en Italie, et sinon ils seront expulsés depuis l'Albanie vers leur pays d'origine ou ailleurs. Donc on a déjà.
C'est l'Italie qui finance l'expulsion, qui finance les expulsions, parce que ça coûte très cher d'expulser les gens, surtout si en plus on les délocalise avant.
Ça fait partie.
Si je voulais rigoler, je dirais dis donc quel bilan carbone. mais voilà, j'aime bien faire des blagues quand c'est le sujet dramatique, pardon. Mais en fait c'est quand même très absurde en réalité.
C'est très absurde, et on le sait que toutes ces pratiques-là, et toutes ces procédures, notamment d'expulsion, ont un coût qui est considérable, souvent pour des résultats qui sont assez faibles, mais des conséquences assez graves sur la vie des personnes. Donc là, c'est vrai que ça semble complètement absurde d'aller parquer des personnes qui viennent d'arriver sur le territoire, qui ont eu un parcours migratoire peut-être qui a duré 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui ont traversé des choses extrêmement difficiles, et puis on les traite comme du bétail, on les envoie dans un autre pays, puis peut-être qu'ils reviendront, puis non, peut-être qu'on les renverra encore ailleurs à l'issue de leur procédure. Donc c'est sûr que c'est assez dingue.
Je sais pas comment on peut imaginer ça. Enfin, en fait, c'est un truc, on a l'impression d'être avec une bande de pingouins en cravate qui font des trucs comme ça sur la table. Je sais pas. Enfin, c'est vraiment très, très bizarre. Enfin, enfin, on va voter pour des gens qui vont siéger dans ces instances. Faut y penser quand même, hein, parce que là, on est quand même assez, enfin, dans le grand, n'importe quoi. Mais surtout que, je le redis, on a prouvé qu'on pouvait faire bien, qu'on pouvait faire mieux au moment de l'arrivée des Ukrainiens. Est-ce que on a des problèmes de sécurité spécifiques avec les Ukrainiens? Est-ce que, bon, alors, ils sont pas dans une situation forcément facile avec les hommes de leur famille sur le front, enfin voilà, c'est des gens qui sont issus d'un pays en guerre, ça doit être très compliqué, mais il n'y a pas eu de problème pour scolariser les enfants, il n'y a pas eu de problème pour les loger, et c'était là pour le coup une arrivée massive, donc bon, mis à part la couleur de peau, on est obligé de se dire que ça compte.
Non mais c'est sûr, et c'est, enfin, les mesures qui ont été mises en œuvre pour l'accueil des Ukrainiens, c'est des mesures qui n'avaient pas été mises en œuvre avant et qui étaient prévues par un texte qui n'a jamais été appliqué.
Bah ouais.
Et donc effectivement, on leur a laissé aussi la possibilité de la liberté d'installation, donc le choix en fait du pays où ils voulaient faire leur demande d'asile.
La possibilité de se soigner s'ils étaient malades, enfin un truc normal. Quoi,
De travailler assez rapidement. Et finalement, je pense que si on regardait, alors on n'a peut-être pas encore assez de recul, mais en termes de coûts, effectivement, c'est beaucoup plus, je dirais pas rentable, mais en fait, je pense que ça coûte beaucoup moins cher d'accueillir convenablement les personnes plutôt que d'essayer de les expulser ou de les contenir à tout prix. Parce que quand on voit les budgets qui sont dédiés, je sais pas, à Frontex ou en tout cas aux politiques, à la construction de murs, à tout ça, pour des effets, voilà, de créer plus de désastres qui sont quand même... pas très identifiable.
Alors, ce qu'on n'a pas évoqué encore dans le même ordre d'idées, on a parlé des demandes d'asile qui seraient examinées dans des pays tiers, voilà, de délocaliser l'examen des demandes, mais il y a aussi des accords bilatéraux, notamment entre la France et la Tunisie, dont on voit aujourd'hui le racisme terrible et les morts qu'on c'est pas encore compté, ces gens qui sont refoulés dans le désert, et il y a des accords pour que les gens ne traversent pas la Méditerranée. Il y a eu des accords aussi avec la Turquie, grand pays démocratique où la France renvoie des Kurdes actuellement par poignée. Voilà, on fait en sorte que la Turquie contienne aussi, je sais pas si c'est encore d'actualité, mais je pense que oui. Vous parliez de l'Égypte, grand pays démocratique aussi. Enfin, on est quand même là dans c'est très limite en fait en termes de possibilités d'accord quand on sait que les droits humains ne sont pas respectés dans ces pays-là.
C'est effectivement très limite, et c'est aussi des accords qui sont négociés et conclus de façon informelle et confidentielle.
Oui, la CIMAD m'avait informé que l'accord entre la Turquie, il n'existait pas en fait, donc vous pouviez même pas attaquer, par exemple, à l'époque.
Oui, ça veut dire qu'il y a aussi pas de contrôle ni du Parlement ni des juridictions, pas de contrôle démocratique en fait sur le contenu de ces accords qui sont négociés et qui sont validés entre guillemets.
Ce sont des accords financiers, hein. C'est de l'argent qu'on donne à ces pays.
C'est de l'argent qui est donné à ces pays pour gérer les frontières, pour contenir l'arrivée des personnes qui voudraient migrer vers l'Europe. Et effectivement, c'est aussi des pays potentiellement qui vont apparaître sur la liste des pays tiers sûrs, vers où on pourra renvoyer des personnes. Je pense notamment à la Tunisie. On n'est absolument pas à l'abri que ça en fasse partie.
Oui, là, on a vu très récemment que c'était un pays très très sûr, notamment pour les avocates qui avaient le malheur de parler.
Oui, alors qu'on constate au quotidien que les pratiques qui sont mises en œuvre, et aussi, enfin, je veux dire, même en Tunisie, ces pratiques assez répressives, violentes, voire extrêmement dangereuses envers les personnes qui traversent la Tunisie, notamment pour se rendre en Europe, c'est aussi les conséquences de nos propres politiques qui sont mises en place au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire que pendant des années, ça a potentiellement pas du tout été un problème pour ces États-là d'avoir des personnes qui migraient, qui venaient travailler, peut-être qui s'installaient en Tunisie, peut-être qu'elles allaient ailleurs. Et parce qu'on met en œuvre ces politiques-là, ça a ses conséquences aussi dans ces États qui renforcent, en tout cas, eux, leur gestion.
Oui, il y a une sorte de mimétisme. C'était ce que je présentais, mais en fait, je suis contente de l'entendre dire parce que j'ai vraiment eu l'impression. Ça, je me suis dit, bon, il y a peut-être un racisme latent, mais je crois que ça a lâché les chevaux, là. C'est-à-dire que, voilà, être raciste, c'est être européen. Donc, comme ils sont. Voilà.
Bah, c'est sûr que ça a ouvert la porte à beaucoup de pratiques, ouais. Et puis parce que c'est aussi pour ça qu'ils sont financés. Donc, quelque part, voilà, ils veulent aussi montrer une certaine fermeté et montrer qu'ils appliquent ce qu'on leur demande de faire, quoi. Donc, oui, on a ces pratiques-là, donc ces accords informels, et on voit qu'ils se multiplient, on a très peu de visibilité. Et c'est régulièrement avec des États où on sait qu'ils violent de façon assez systématique les droits humains, et notamment envers les personnes migrantes. Mais on a d'autres mécanismes qui sont mis en œuvre, donc que ce soit le conditionnement de l'aide au développement par rapport à justement la bonne application de ces mesures sur les questions migratoires, ou alors les sanctions au niveau de la politique des visas. Mm-mm. Donc la non-délivrance, en tout cas les restrictions de délivrance de visa si les personnes ne réadmettent pas leurs ressortissants sur leur territoire. Enfin voilà, il y a toutes ces mesures qui se développent et qui sont très opaques et qui sont aussi très violentes en fait, et qui continuent à instaurer un système où c'est l'Union européenne finalement qui décide ce qui se passe sur les autres les États tiers.
Ouais, c'est totalement colonial en fait, très très post-colonial. Enfin, il y a cet esprit qui est renforcé encore dans ces lois là. C'est assez terrible. Je vous propose, si c'est possible, qu'on écoute un peu de musique. Gilles a l'air de me dire que oui. Bon, bah on va écouter un groupe breton, La Belle Bleue, c'est ça? Eh ben on les écoute.
Le ciel est clair sur le chemin de l'école, le cartable lourd plein d'antis sèches. Un livre d'histoire, c'est là que je rigole, un bleu jean tout blue sur les fesses. Il part rejoindre ses deux petits potes qui ont la peau bien plus blanche que lui, et dans leur poche un bout de plastoc qui leur donne le droit d'être ici, devant la grille de cet endroit où l'on devient des citoyens. Y'a trois soldats qu'envoie le roi pour briser les rêves d'un gamin. Il manque un môme sur la photo de classe de l'école Jacques Prévert. Il pose en ce moment sous les flashs de l'objectif d'un Karcher, et avait de la pression dans le tuyau et du recul jusqu'au charter de ce pays qui remue bien haut trois jolis mots sur sa bannière. Allez salut, pleure pas petit, tu rentres chez toi et reste-y. Le seul transit qu'on autorise là-bas, c'est celui des fusils. Expulsez-moi, je suis mort français néen, putain de terrien qui pisse sur vos jolies frontières. Moi, j'appartiens au genre humain. Moi, mon pays, c'est la terre.
Le ciel est clair sur le chemin du retour au pays natal, comme on dit. Un sac de voyage pas bien lourd pour y caser toute sa vie. Il part rejoindre sa grande famille qu'il connaît pas même en photo, quelque part entre le Mali et le Burkina Faso. Comme il n'est pas vraiment en joie de cette expérience du lointain, il y a trois soldats qu'envoie le roi pour tenir en laisse un gamin. Il manque 1000 noms sur la grande liste des objectifs du ministère. Il prie Dieu pour que la police n'y ajoute pas son frère qui crèche dans un squat moisi, est exploité par un boucher, met en péril l'économie et surtout ne le reverra jamais. Lui, perdu dans son aéroport, on ne lui donne que la sortie et ce putain de bout de plastoc qui lui dit ta vie c'est ici.
Expulsez-moi, je suis mort français néen, putain de terrien qui pisse sur vos jolies frontières. Moi, j'appartiens au genre humain. Moi, mon pays c'est la terre.
Des litres d'urine sur vos frontières, car moi, mon pays c'est la terre. Expulsez-moi,
expulsez-moi, je suis pas français.
Expulsez-moi,
moi j'appartiens au genre humain.
Expulsez-moi, mon pays c'est la terre. Des litres d'urine sur vos frontières, moi mon pays c'est la terre. Expulsez-moi, expulsez-moi, je suis pas français mais un putain de terrien. Jolie frontière, moi, j'appartiens au champ. Mon pays, c'est la terre. Expulsez-moi.
la terre.
Voilà, c'était donc La Belle Bleue sur Cause Commune 93.1. Expulsez-moi, c'était le titre de cette chanson. Nous parlons du pacte migratoire européen qui a été adopté donc le 10 avril dernier. Nous en parlons avec Dalia Franz, qui est responsable des questions européennes à la CIMADE, avec nous aussi, qui ne dit rien mais qui nous donne des petites indications comme ça hors antenne. Lydia Dinam, notre l'instigatrice en fait de ce partenariat, enfin la coordinatrice du partenariat entre notre radio et à la CIMADE et son beau combat pour le droit des personnes étrangères en France et en Europe, du coup. Alors, Dalia Franz, on n'a pas encore parlé d'un truc qui aurait pu être bien, c'est-à-dire la fin des accords Dublin. Ça aussi, c'était une belle absurdité. Les personnes qui posaient un pied dans l'espace Schengen, si elles étaient arrêtées, enregistrées dans un pays, principalement les premiers pays où elles arrivaient, c'est-à-dire en Grèce, en Italie, à Malte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en Espagne, eh bien, elles étaient obligées de faire leur demande d'asile dans le premier pays où elles avaient été enregistrées. Et donc, ce règlement Dublin, il est décrié parce que ça crée, il y a plus de demandes d'asile dans les pays de premier accueil, alors qu'il y en a moins par exemple, il y en avait moins à l'époque au Royaume-Uni, où voulaient aller plein de gens. Enfin voilà, donc c'était vraiment en termes de liberté d'installation, des gens qui parlaient anglais, ils voulaient aller dans un pays anglophone, ils se retrouvaient coincés en Grèce. Les gens qui voulaient aller en France, parfois ils se retrouvaient coincés en Italie. S'ils arrivaient en France, qu'ils étaient dublinés, il fallait attendre des mois et des mois pour être éventuellement dédublinés. Enfin voilà, un casse-tête dont tout le monde à peu près reconnaît que c'était pas possible. Est-ce que ça a pu être supprimé?
Alors c'est un peu c'est presque drôle tellement c'est absurde, mais en fait on nous vend un peu la fin du système Dublin, puisque effectivement c'est un règlement qui va être abrogé et qui est remplacé par un nouveau règlement donc qui ne s'appelle plus Dublin mais qui est en fait exactement la même chose. C'est le même système qui est mis en œuvre avec quelques modifications, c'est-à-dire qu'on a ajouté un critère, la possession d'un diplôme ou d'un titre de qualification qui pourrait justifier qu'on puisse aller dans l'état qui nous l'aurait délivré, donc pas dans l'état de première entrée. Mais sinon, c'est exactement les mêmes critères qu'avant, donc ça reste l'état de première entrée en principe qui est responsable, et après, selon si on a de la famille dans un autre état, ça pourrait être pris en compte. Donc en fait, on a le même système exactement qui est conservé, voire qui est renforcé, puisqu'on a un allongement des délais de responsabilité de ces états de première entrée. Donc en fait, on n'a pas du tout une abolition du système Dublin, on a conservé ce système, voire on l'a renforcé. Dans ce même règlement, donc on a aussi toute une partie sur la solidarité.
Avec plein de guillemets, hein, vous les faites avec les doigts, je l'ai dit.
Donc cette solidarité qui devrait être mise en œuvre entre les États, justement pour permettre d'alléger, en tout cas la gestion des arrivées qui pèsent sur les États d'entrée. Et en fait, c'est une solidarité qui est non contraignante. Donc c'est un des textes qui a été l'objet de beaucoup de négociations, justement. Et donc finalement, il y a certains États qui ont pu avoir des concessions puisqu'elles souhaitaient pas tellement voir mise en œuvre cette solidarité. Donc finalement, on a des obligations de relocalisation, donc de relocaliser les demandeurs d'asile qui seraient dans ces pays d'entrée vers d'autres États en fonction de leur population, qui n'est pas contraignante et dont on peut se soustraire en donnant de l'argent finalement à ces états d'entrée. Donc on met même un prix en fait sur les personnes, hein, à hauteur de 20 000 euros.
Ah oui, quand même, par personne. Donc tout à fait. 20 000 euros. Ah, super.
Ou en finançant d'autres projets qui viendraient Enfin,
alors, la construction de murs. Alors, le non-accueil, c'est 20 000 balles par personne. Mais putain, on est riche. Hein. Ah non, mais vraiment. Non, mais pardon, je ne digère pas ça. J'avais pas le chiffre. Ouais.
C'est bien noté.
Bon, l'expulsion, c'est 15 000 balles par personne, à peu près, entre 10 et 15. Donc, ouais, c'est bon. On est très, très riche. Ouais.
Voilà, donc en tout cas, on a ce mécanisme soi-disant de solidarité qui en fait veut pas dire grand-chose puisque chaque État va pouvoir faire à peu près ce qu'il veut, c'est-à-dire soit accueillir donc ces relocalisations quand on sait déjà que les États qui s'étaient engagés ces dernières années à relocaliser depuis la Grèce ou l'Italie n'ont jamais tenu leurs promesses. Et donc là, quand on sait que c'est pas contraignant, même ceux qui vont s'engager à relocaliser, on n'est pas sûr qu'ils tiennent leur promesses effectivement. Et puis en fait, il y en a plein qui vont pouvoir se dédouaner en disant, bah moi je vais financer ceci, je vais donner de l'argent à tel État. Et c'est aussi prévu que justement à la place de ces relocalisations, ils puissent financer soit des projets dans les États d'accueil, donc de renforcement des contrôles, des frontières, de construction de murs, etc. Mais ou aussi de financer.
Autant faire tourner le bâtiment en même temps.
Ou aussi de financer des projets pareil, dans des États tiers avec lesquels il y a des accords. Donc, pour le même type de, soit de formation, des gardes-côtes, enfin voilà, des choses comme ça. Donc, une très, très belle solidarité, évidemment, qui donc ne va absolument pas du tout changer les problématiques qu'il pouvait y avoir dans les États de première entrée qui estiment devoir porter la charge assez seule, en tout cas des personnes qui arrivent sur le territoire européen. Voilà, donc pas tant de changements.
Bon, eh ben super, là encore, on est en absurdité totale. Je comprends pas qu'on puisse se laisser... Enfin voilà, j'ai du mal à entendre les arguments de ceux qui prônent ce genre de politique d'un point de vue purement logique. Hein. C'est quand même extrêmement coûteux, cette passion du rejet. Donc ça, c'est quand même de l'argent des citoyens au final, hein. C'est pas l'argent européen, il sort pas de nulle part, c'est de la poche de tous les contribuables. Donc on paye chacun quand on achète quoi que ce soit, la TVA elle sert aussi à ça. Faut que les auditeurs le sachent, quoi qu'ils votent. Et justement, on va parler bientôt de vote, puisqu'on va voter bientôt. D'ailleurs, je propose qu'on écoute la CIMAD à réaliser un petit spot. Alors, vous ne verrez pas à la radio l'infographie. Je vous invite à aller sur le site de la CIMAD pour voir le petit spot avec donc les images et les dessins. Mais on va l'écouter.
Du 6 au 9 juin prochain, on élit nos eurodéputés. Au total, 400 millions d'Européennes et d'Européens sont appelés aux urnes pour les élections européennes. Notre but aujourd'hui, c'est de t'informer sur les enjeux autour de ces élections. Et crois-moi, ils sont immenses. Le risque, c'est une déferlante.
Ce qui était interdit en termes d'incitation au racisme est permis et devient donc la norme.
Une déferlante de haine et de rejet qui menace tous les pays européens. L'objectif de ces élections, c'est d'élire des eurodéputés dans chaque pays qui forment ensuite des groupes par alliance politique au Parlement européen. Et la réalité, c'est que beaucoup de choses se décident là-bas. Droits des femmes, protection de l'environnement, politique agricole, droits du travail ou encore droits des personnes migrantes. Ça veut dire que plus on laisse de place aux idées xénophobes et réactionnaires dans cette élection, plus on risque de se retrouver avec des lois liberticides et répressives envers les personnes étrangères vivant en Europe ou souhaitant y trouver refuge. Les conséquences de ces politiques sont déjà dramatiques. Depuis les années 90, plus de 2000 km de clôtures ont été construites aux frontières de l'Europe et au moins 50 000 femmes, hommes et enfants ont perdu la vie sur leur parcours migratoire vers l'Europe. Et le pacte sur la migration et l'asile qui vient d'être adopté ne va rien arranger. En total décalage avec les réalités migratoires, c'est une réforme coûteuse et inefficace qui va créer toujours plus de désastres humanitaires. Parce que la haine et le rejet de l'autre ne sont pas une fatalité, mettons fin à une Europe qui s'enferme et enferme et revendiquons un accueil digne et solidaire.
Et voilà, un accueil digne et solidaire, c'est ce que prône la CIMAD depuis que je connais la CIMAD, c'est-à-dire depuis toujours en fait. Hein. Et c'est vrai qu'en parlant d'élections européennes, on a pu constater qu'en très très bonne position, quatrième position je crois sur la liste du Rassemblement National de Jordan Bardella, en numéro 3 pardon, on trouve Fabrice Leggeri. Alors qui est-il? Tiens, il vous rappelle de bons souvenirs d'Alia France?
C'est l'ancien directeur de Frontex. Frontex, donc, ouais. Frontex qui est l'agence chargée de gérer le contrôle des frontières dont les pratiques sont dénoncées depuis de nombreuses années parce que souvent il est contraire au droit. En fait, les missions mêmes qui sont dévouées à Frontex ne peuvent pas permettre...
Bah, c'est contraire au droit de la mer, notamment, puisqu'on est censé sauver des gens en mer. Enfin, il y a un droit maritime hein, qui dit ça, que respectent tous les sauveteurs en mer. Sauf que les navires de Frontex font du push-off, c'est comme ça qu'on appelle. Enfin, ils vont parfois jusqu'à dégonfler des bateaux gonflables et repousser des gens qui, dont certains ont pu se noyer. Il y a eu aussi des questions de tir à la frontière espagnole. Enfin voilà, il y a eu Frontex est responsable quand même. C'est pas des violations, c'est des morts en fait.
Effectivement, il y a eu beaucoup de. Enfin, ça fait assez pas mal d'années que c'est dénoncé ces pratiques aux frontières, en tout cas de refoulement, ce qui est complètement illégal de personnes qui essaient de se rendre en Europe, notamment en mer, mais aussi aux frontières terrestres qui sont à l'est, avec des pratiques souvent violentes, soit qui sont cautionnées par Frontex, c'est-à-dire qu'ils sont présents, ils voient ce qui se passe, mais ils n'interviennent pas, soit voire qui y participent, notamment, les refoulements vers la Libye où on sait très bien ce qui attend les personnes qui y sont refoulées, mais où en fait la non-intervention tout simplement en mer, le non-signalement de bateaux qui vont prendre l'eau en fait et où les personnes vont potentiellement trouver la mort. Donc c'est ces pratiques-là qui sont graves, mais c'est aussi
c'est vrai que je parlais de pour les pratiques terrestres et les frontières terrestres, on connaissait un peu ce qui pouvait se passer dans les grands grillages à la frontière espagnole, notamment sur les enclaves à Ceuta et Melilla, mais de mon point de vue, parce que j'avais pas vu avant, ce qui se passe en Croatie est absolument dramatique, avec des pratiques vraiment de quasi-torture hein, par les gardiens de ces frontières qui sont réputés pour leur cruauté. Et ça a été documenté par des sociologues plus récemment, en fait.
Oui, il y a de la documentation qui est sortie depuis un moment, mais sur la Croatie, la Serbie, la Hongrie, la Bulgarie, enfin voilà, un certain nombre d'États où il y a des pratiques extrêmement violentes au niveau des frontières. Il y a un rapport du comité de prévention de la torture qui est sorti. Où effectivement ils dénoncent des pratiques qui sont de lâcher de chiens sur les personnes, de mise à nu dans la forêt,
de tirer à côté de la tête pour faire croire qu'il y a une exécution, des choses comme ça.
De jeter des personnes dans des rivières, des pratiques qui sont assez dingues, on n'y croirait presque pas que c'est réel et pourtant ça l'est, parce qu'on parle quand même aussi c'est les autorités qui mettent en œuvre ces pratiques.
Bien sûr, c'est pas des gens parce que la cruauté elle existe chez beaucoup de gens, mais en tout cas là elle est largement légitimée, autorisée, elle est commandée, quoi.
Donc Frontex est quand même lié à toutes ces pratiques-là, mais il y a eu aussi beaucoup de questions sur la gestion financière de Frontex. Frontex, actuellement, c'est 845 millions de budget annuel, ce qui est énorme.
C'est une grande armée, hein, quelque part, ouais.
Qui a un budget qui a été multiplié par 140 en l'espace de 14 ans, donc c'est énorme. Il y a quand même eu beaucoup de suspicions de
malversations financières. C'est d'ailleurs ça ce qui a précipité un petit peu le départ de ce monsieur. Donc j'oublie toujours son nom en I là,
Fabrice Leggeri
là, voilà, qui en a profité pour rejoindre l'endroit où il se sent sans doute très bien, c'est-à-dire le Rassemblement National. Voilà. Si vous voulez voter pour Frontex, votez RN. En gros, c'est ça. Enfin, c'est le message est assez clair. C'est sans doute pour ça qu'il a été recruté sur cette liste là. Et donc parlons un peu de ces élections européennes. Bon, d'abord, vu tout ce qu'on vient de dire, est-ce qu'un jour on peut ouvrir les yeux et revenir en arrière, quoi? Est-ce que là c'est peut-être pas encore promulgué, toutes ces lois qui ont été votées le 10 avril, contrairement à la loi immigration qui a été votée très très vite, à la loi sur les retraites qui a été votée très très vite en France, peut-être que ça va mettre un peu de temps à être publié au Journal officiel de l'Union européenne, je sais pas quelle est la procédure. Est-ce qu'on peut encore stopper ça? Est-ce que les députés, les parlementaires que nous allons élire, si un sursaut républicain européen avait lieu, est-ce qu'il est possible de contrer en fait ce qui vient d'être voté? Est-ce qu'une autre politique européenne est possible?
Alors là, déjà...
C'est la question à 100 000 euros. Hein.
Sur les textes qui ont été votés, donc c'est des textes qui vont entrer en vigueur dans 2 ans. Donc c'est pas tout de suite, ouais. Et notamment parce que c'est une dizaine de textes, ouais. Qui sont tous assez longs. Enfin voilà, c'est une grosse réforme, même si on l'a vu, ça finalement, on reste dans les mêmes pratiques, les mêmes systèmes, etc. Mais il y a un besoin de travail et par la Commission dans un premier temps, puis ensuite par chaque État pour prévoir un plan de mise en œuvre, etc. Donc voilà, on est sur une période de 2 ans avant l'entrée en vigueur. Donc ce sera pas tout de suite. Et dans cette période-là, c'est effectivement là où, comme il y a les plans de mise en œuvre qui vont être travaillés, où on va pouvoir avoir certaines réponses et peut-être faire encore un petit peu de plaidoyer pour obtenir certaines garanties sur les différentes procédures, notamment des garanties sur l'accès au droit, en fait, des personnes qui vont être enfermées, qui vont être soumises aux procédures de tri, etc., qu'elles puissent, au moins qu'on puisse s'assurer qu'elles puissent voir un juge, qu'elles puissent avoir une défense, etc., même si c'est pas forcément prévu dans les textes. Mm-hmm. Donc c'est peut-être des toutes petites marges de manœuvre d'ici là.
Et je vous ai pas posé la question, est-ce qu'il y a encore des recours juridiques? Parce que c'est vrai qu'on a vu que les violations des droits, enfin, vous les dénoncez, vous n'êtes pas les seuls, il y a le justice, enfin, il y a plein, il y a toutes les associations qui s'intéressent aux droits humains, enfin, sont vent debout contre ces violations des droits humains. Est-ce qu'il y a des recours possibles devant des instances internationales?
Sur les textes même là, on n'a pas de mécanisme comme on peut avoir là de saisine du Conseil constitutionnel, ouais. Par exemple. Ça, c'est pas possible. Par contre, ce qui sera plutôt possible, ce sera après l'entrée en vigueur de ces textes sur des situations qui vont pouvoir poser des questions de droit, de pouvoir saisir les juridictions pour avoir certaines réponses.
Ah oui, d'accord, ça va être au cas par cas, en fait, à chaque fois qu'il y aura une violation, on pourra la dénoncer. C'est un boulot de fou. En fait.
ça va nécessiter un suivi important sur ce qui se passe. Et après, bon, il y a plusieurs organisations qui sont mobilisées, qui veulent pouvoir intervenir là-dessus, voire même des députés hein, qui ont une volonté de pouvoir contester, en tout cas mettre en lumière les pratiques qui vont ressortir de ces textes et saisir les juridictions en conséquence. Mais c'est sûr que ça prend du temps et ça va pas être simple. Et donc pour répondre à votre question là, c'est vrai que bon, on imagine assez mal dans les prochaines années pouvoir venir remettre en cause les textes qui ont été adoptés. Par contre, on peut toujours avoir pire, malheureusement.
J'aurais invité.
Ouais, alors c'est sûr qu'on pourrait avoir l'espoir, et nous c'est ce qu'on prône.
C'est avoir pire là, on touche quand même pas mal le fond hein, là.
On touche pas mal le fond, ça c'est sûr. Et effectivement, en soi, une autre politique serait possible, et on le sait qu'on pourrait faire autre chose. On en a parlé notamment sur l'accueil des Ukrainiens. On sait qu'on pourrait mettre en œuvre d'autres
politiques. On a quand même un exemple de quelque chose qui s'est bien passé.
Dans le contexte qu'on a actuellement, c'est vrai que c'est pas très engageant pour le moment. Et il y a encore des textes sur lesquels il n'y a pas eu d'accord. Et donc, qui vont être rediscutés sur la prochaine mandature. Et c'est pour ça qu'il faut aussi avoir une vigilance là-dessus, puisque tout n'est pas abouti. Il y a encore des accords qui pourraient être négociés. Puis il y a toute cette question, en fait, dont on a parlé, des accords avec les pays tiers, qui sont en train de se développer, même si le Parlement a très peu de contrôle sur ces accords, puisqu'ils sont informels
et bilatéraux. Ouais.
Il y a quand même des procédures qui sont mises en œuvre par des parlementaires pour demander des comptes à la Commission et aux États sur ces accords qui sont formés. Et donc c'est aussi important d'avoir des députés qui veulent mettre en œuvre ces procédures qui permettent de demander des comptes sur ces accords, et puis en tout cas qui peuvent faire entendre leur voix sur une volonté de mettre fin à ce type d'accord.
Voilà, essayer de porter autre chose. Mmh. Et est-ce qu'un pays européen, est-ce que ce pacte il va être contraignant pour tout le monde, ou est-ce qu'un pays européen peut dire que lui il accueille, que lui il met pas en œuvre, est-ce qu'on peut imaginer ça, est-ce qu'on peut imaginer une sorte de riaché européen, de village enfin voilà, d'un pays qui dirait non, moi je tente autre chose.
Alors il y a des textes, où l'application est obligatoire. Après, généralement, c'est aussi des textes où si l'État en question, enfin si un État veut adopter des mesures qui seraient un peu moins contraignantes, ça reste possible, mais ça dépend des mesures, parce qu'il faut quand même une cohérence à un moment, donc Donc voilà, mais il y a, par exemple, au niveau européen, la durée maximale d'enfermement pour les personnes étrangères, elle est fixée à 18 mois. Donc ça, c'est une directive qui existe déjà. Et en France, on est à 3 mois, c'est déjà trop.
Oui, oui.
Notamment quand on voit les conditions. Mais voilà, ça n'empêche qu'on n'est pas allé au maximum de ce que prévoyait la législation au niveau européen.
Ne donnez pas d'idées, s'il vous plaît. Ne dites rien. Je précise pour les auditeurs, Riace, c'était un village de Calabre. Et la bonne nouvelle, quand même, il y en a de temps en temps, c'est qu'après, son maire, Domenico Lucano, a été poursuivi par l'État italien pour avoir accueilli des exilés, hein, avoir fait un village où ça s'est très bien passé, où il y a eu un accueil assez extraordinaire, où le village a revécu, un village un peu désertifié, a revécu grâce à l'arrivée de populations nouvelles. Et très récemment, Domenico di Mimmo Lucano a été relaxé de toutes les poursuites. Il a quand même fait de la prison, hein. Il a quand même été condamné, etc. Il a récemment été relaxé. Enfin, c'était inespéré. C'est totalement logique, mais voilà. Donc, il y a quand même quelques petites bonnes nouvelles. La criminalisation de l'accueil, c'est en marche, mais ça ne marche pas toujours. Mmh. Parfois, on s'en sort. Voilà.
Bah, en tout cas, c'est souvent au niveau local qu'on voit qu'il y a des initiatives, qui vont. À l'encontre des politiques qui sont actuellement menées, et c'est souvent là que ça fonctionne, puisque c'est la mobilisation citoyenne, ou en tout cas des personnes qui sont là, qui peut changer les choses. Et c'est souvent des...
C'est sûr, mais après ça, on le voit et on l'a vu récemment en Grèce, au moment où il y a eu cette période Syriza, pourtant dans une période de crise économique, avec une grosse pression européenne sur des mesures de rétorsion et d'austérité terribles. Au moment où Alexis Tsipras était au pouvoir, les consignes données à la police n'étaient pas les mêmes, et le traitement, on disait plus pareil, on disait plus les illégaux, on les appelait les exilés. Ce qui vient de la tête de l'État, quand même, et de la tête de l'Europe, je pense, a quand même une influence. On peut pas... Enfin, voilà, c'est plus facile d'avoir une politique d'accueil au niveau local quand on a quand même un gouvernement qui imprime quelque chose. Et puis la police, elle est nationale, et la police, elle fait ce qu'on lui dit quand même.
Non, ça c'est sûr. Après, on s'attend quand même, là, avec toutes ces règles qui vont rentrer en vigueur dans 2 ans, à ce qu'en fait elles soient... Elles soient intenables, elles soient impossibles à mettre en œuvre, parce qu'elles sont déjà d'une complexité, d'une lourdeur qui est... on voit pas qui va pouvoir mettre en œuvre ça. Et puis parce qu'en fait, on l'a vu, on reste dans les mêmes systèmes et dans les mêmes mécanismes qui ne fonctionnent pas.
Bah ouais.
Donc en fait, c'est tout un paquet de règles, c'est des pages et des pages de textes qui finalement vont probablement pas vraiment être appliqués. Et peut-être qu'à un moment, on finira par se rendre compte de l'absurdité de... on va toujours tellement plus loin dans ces règles qu'à un moment, on va bien se rendre compte que... En tout cas, je l'espère, qu'on fait face à un mur et que les logiques qu'on essaie de mettre en œuvre, elles ne fonctionnent pas.
Mmh. C'est vrai que j'essaye de réfléchir. Je me dis, est-ce que dans l'histoire, on a eu comme ça des périodes où on était tellement dans un rejet, qu'il a fallu s'arrêter. Quels ont été les renversements? Je ne sais pas, je laisse chacun réfléchir. Je ne veux pas être dans un point Godwin ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'à un moment, là, on est en train d'aller trop loin et je ne sais pas comment on peut se sortir de ça, quoi. C'est compliqué. Heureusement, il y a la CIMAD, il y a la Ligue des droits de l'homme, il y a toutes les organisations islamo-gauchistes et woke et il y a Écosse Commune. Non, mais il y a bien sûr plein de citoyens qui vivent au quotidien avec des gens qui viennent de partout et qui ne peuvent pas être dans cet état d'esprit parce que tout simplement la réalité n'est pas. Enfin voilà, ce qui fonde ces lois n'est pas juste et n'est pas vrai, ne correspond à rien. Mais on est quand même dans un moment politique particulier. Donc, je note que dans le spot de la CIMAD, on tue toi son interlocuteur, ça veut dire que bon, les jeunes là qui nous écoutaient, c'est surtout les jeunes qui doivent aller voter, c'est eux qui doivent s'inscrire et qui doivent se mobiliser. Hein.
Bah c'est vrai que c'est aussi parmi les jeunes qu'il y a un taux d'abstention assez important.
Ouais. Et un taux de tolérance aussi un peu plus important. Je veux croire à la jeunesse, moi. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup certains groupuscules, etc. Mais c'est vrai que tous les jeunes écolos décroissants, là, allez voter. Voilà.
Allez voter ou mobilisez-vous comme vous voulez,
oui,
pour
bien
que
sûr.
D'autres messages puissent passer et d'autres politiques puissent être mises en œuvre. Voilà. On espère.
Bon, Lydia, un dernier mot. Faut nous dire un mot avant qu'on se quitte. Le piège. Comment ça se passe, le bénévolat à la CIMADE? Est-ce qu'on a besoin de bénévoles? Est-ce qu'on mobilise?
Alors, oui, on a toujours besoin de bénévoles. Et puis là, ce qui est bien, en tout cas en Île-de-France, c'est qu'on a de plus en plus de bénévoles jeunes.
Génial.
Qui arrivent et qui ne sont disponibles, évidemment, qu'à partir de 18h30 après leur boulot. Donc, on a ouvert des permanences du soir.
Ben, ça arrange aussi les gens, parce que les gens bossent.
Oui, parce que les gens travaillent aussi. Ouais. Donc, voilà. Donc, et puis, on mène de plus en plus d'actions de sensibilisation, notamment dans les lycées, dans les collèges, et on est de plus en plus sollicité pour venir expliquer à des étudiants également de grandes écoles aujourd'hui. Donc, on est très contente.
Ouais, je dis contente parce que c'est que des nanas. Hein. Vous êtes une sacrée bande de nanas.
Parce que on est en très grande majorité des nanas, comme vous dites.
Je dis ça parce que je vous ai vu, donc vous m'avez l'air voilà. D'une sacrée bonne bande. Bon, les gars, si vous voulez les rejoindre, elles sont...
Voilà, rejoignez-nous.
Elles vous accueilleront, elles vous formeront.
Oui, donc voilà, on est évidemment dans un optimisme très relatif.
Mais vous lâchez rien, enfin, de toute façon, on n'a pas le choix là, je pense.
Mais on ne lâche rien, ouais. On ne lâche rien et on continue de se battre, notamment par des mobilisations, par des plaidoyers, par des...
Oui, alors il y a toujours des très très bonnes analyses sur le site de la CIMADE, et d'autres aussi, mais évidemment, tout est décrypté, les textes sont présentés, oui. On voit vraiment que vous faites un boulot, mais absolument fabuleux. Il y a quasiment chaque article avec ce qui était avant, ce qui est maintenant. Les gens peuvent vraiment s'informer en réalité, savoir, pas juste croire ce qu'on dit à la télé, à la radio, même ici, vérifier tout ce qu'on a dit. Tiens, allez, au boulot. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Dalia France, c'était extrêmement clair, extrêmement limpide. Et merci, Lydia, on se retrouve très bientôt.
On se retrouve bientôt.
Et on se quitte en musique avec Cyril Mokayesh.
On vous laisse la tribune, les honneurs du pouvoir, on vous laisse voler la victoire. On vous laisse le soin de bien ingurgiter notre part de votre marché. On vous laisse notre âme sur le bas-côté, endettée, endettée, en détresse. À genoux de chagrin d'avoir fait le baise-main à l'austérité, son altesse. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés. De quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse libéral démocratisé, chômage à volonté. On vous laisse nos destins s'ouvrir les veines en commission européenne. On vous laisse allonger la peur dans notre lit, mais faut pas toujours croire ce qu'on dit. Athènes, Apollon a raison de chanter ma liberté. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés. De quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse nos hivers et notre dignité. De quoi vous distraire pour quelques années. On vous laisse ArcelorMittalisée, à Florange, l'or et l'acier. On vous laisse cet étrange capitalisé sur la précarité. On vous laisse à vos super hyper profits pour la belle vie. Chez Lidl, le pack de bière à des pulsions suicidaires. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés. De quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse nos hivers et notre dignité. De quoi vous distraire pour quelques années.
Je pense être d'accord avec vous en disant que nous ne formons pas ici un club fermé. Ainsi seulement l'Europe réussira à mettre en valeur le patrimoine total qui est commun à tous les pays.
On vous laisse nos frontières se refermer, hommes à la mer émigrés, cap sur l'Angleterre,
depuis la Guinée. T'as le temps d'apprendre à nager.
On vous laisse nos frontières se refermer sur la Méditerranée. Enfant de la guerre, cherche un bout de terre pour apprendre à marcher.
De quoi vous distraire pour quelques années?
De quoi vous distraire et vous en aller?
De quoi vous distraire et vous en allez.
De quoi vous distraire et vous en allez.